Les archipéliens sont parmi nous.
Bonsoir Sébastien Bizet.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir en studio pour cette séquence archipel de la médiathèque. Nous allons poursuivre sur notre chemin d'expérience que nous avons entamé les séquences précédentes. Alors on est encore un peu sous le choc tout de même de la séance de lundi dernier avec, comment s'appelait-il ?
Justicial de...
Oui.
qui en a laissé plus d'un perplexe, j'imagine.
Oui, je le suppose. Pas de réaction horrifiée de nos éditeurs, mais tout de même. Alors aujourd'hui, plus calme, un chemin d'expérience plus tranquille.
Oui, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus calme. Mais l'idée, c'est bien de poursuivre et de clôturer sur ce thème de l'expérience. Je rappelle en deux mots qu'on avait compris cette expérience dans une tradition un peu pragmatiste. Hein, donc, c'est-à-dire que l'expérience se concevait comme ces négociations nature-culture. Hein, c'était la manière pour l'homme d'entrer en contact avec son environnement par le biais de signes, de symboles, etc. Alors, ce que j'avais essayé de montrer... c'est que l'expérience esthétique, donc l'art, grosso modo, n'est pas une expérience qui est distincte de la vie quotidienne. Il faut bien comprendre l'expérience esthétique dans le prolongement de l'expérience la plus prosaïque. Et quelque part, l'expérience de l'art, c'est l'expérience la plus aboutie. C'est en quelque sorte l'expérience de l'expérience. Hein. C'est le point culminant de l'expérience. Et donc nous avions écouté un certain nombre d'artistes, d'extraits assez hétéroclites, hein, John Cage, La Monte Young, Musica Electronica Viva, Justicielle Dame, Robert Filou, etc. Et chaque fois j'avais essayé de les situer dans leur contexte historique pour montrer quel était le lien entre tous ces praticiens. Et aujourd'hui je voudrais me tourner vers un autre type de pratique, des pratiques beaucoup plus situationnelles, des musiques in situ, enregistrement de terrain, donc... des pratiques vraiment contextuelles. Alors, il y a l'année passée, je pense, un de mes prédécesseurs avait déjà abordé la question des interventions sonores sur site, avec notamment le cas de John Butcher, saxophoniste, qui intervenait dans des lieux un peu insolites, comme des mausolées, grottes, caves, anciens bâtiments industriels, ce genre de choses. La notion d'installation sonore avait aussi été abordée au travers de l'œuvre de Max Eastley. Et aujourd'hui, je voudrais me tourner vers des pratiques... qu'on appelle communément de field recording, donc d'enregistrement de terrain. Alors, la notion de situation en musique, elle est primordiale. On l'avait déjà pu en parler autour de Fluxus notamment. C'est quelque chose d'assez répandu, hein, même si ce n'est pas non plus généralisé. Et d'ailleurs, certains musiciens de rue aujourd'hui, des musiciens ambulants, certains parlent de situation art pour qualifier leur pratique, donc vraiment un art de la situation. Je pense notamment aux deux buskers, donc les buskers ce sont ces musiciens ambulants, hein, puisque busking en anglais c'est vraiment le fait de jouer dans la rue, etc. Bongo Mike et Extremely Frank Jeremy, qui depuis les années 80 ont parcouru l'Europe en tant que nomades, itinérants, et ont pratiqué leur musique un peu folk, comme ça, sur les routes. Et eux ont vraiment qualifié leur pratique d'art de la situation. Donc c'est vraiment une volonté de saisir le moment musical, ce moment un peu de l'ici et maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la musique à l'origine, c'est bien de la performance. C'est peut-être un des seuls médiums artistiques qui, a priori, est performatif.
Oui, il y a quand même le théâtre.
Et le théâtre, oui, bien sûr. Mais là, on est dans un mode de représentation, tandis que la musique est dans un mode d'exécution directe. C'est-à-dire qu'on, ce qui est... y a, à part dans certains registres, mais la temporalité de la musique, c'est du moment présent, etc. Et donc, c'est, enfin, à part des registres, des programmes qui se veulent beaucoup plus narratifs et qui sont censés illustrer des histoires, etc. La musique en tant que performance, c'est ce que j'avais essayé d'exprimer avec Filiou notamment et les autres membres de Fluxus, c'est le hic et nunc, c'est l'ici et maintenant. On partage un contexte qui est un contexte précis, spécifique, dans un lieu spécifique. Et depuis les années 70, un certain nombre d'artistes enregistrent comme ça, pour le simple plaisir de capter un environnement sonore, enregistrent des ambiances, des paysages sonores. En 1972, il y a un artiste anglais, David Tremlett, qui avait réalisé cette œuvre d'art plastique de Spring Recordings, qui consistait en 81 cassettes audio disposées sur une étagère et qui contenait à chaque fois des enregistrements en plein air d'un des comtés du Royaume-Uni. Et cette œuvre plastique formalise une pratique donc, qui est aujourd'hui bien répandue, celle du field recording, qui en soi n'est pas une composition musicale, mais plutôt une captation pure et simple d'un environnement sonore, qui évidemment après peut faire l'objet d'un traitement, de manipulation. Alors, ces pratiques de field recording révèlent vraiment de nombreuses manières de tendre l'oreille hein, vers le monde et de tendre le micro vers le monde. Donc on peut capter énormément de choses, la vie domestique quotidienne, la vie d'un lieu, d'une région, des activités type métier, industrie ou des moments de socialité particuliers comme le carnaval, les fêtes populaires, cérémonies religieuses, etc. Alors le voyage, évidemment, c'est aussi un thème potentiel. Et le voyage est notamment au cœur de l'œuvre d'Aki Honda, qui est un musicien et photographe japonais, maître du field recording, et qui travaille autour des relations entre lieu, musique et mémoire. Alors, Aki Honda est bien connu pour ses performances cassette memories, au cours desquelles il mixe en fait, des cassettes audio, sur lesquelles il a enregistré au préalable un certain nombre d'ambiances sonores au travers de ses voyages. Donc ces cassettes constituent vraiment une espèce de journal intime de ses déplacements. Et donc depuis la fin des années 80, il se déplace muni de son microphone, hein, plutôt que de son appareil photographique, et il compile ses enregistrements pour après les sampler, les moduler, les superposer. Alors je propose, avant d'aller plus loin, d'écouter un extrait, La petite fille à Tanger, qui est un extrait qui provient de cet album Bon Voyage, publié en 2003.
Thank you.
Un paysage sonore avec voix d'enfant, la petite fille de Tanger, Daki Honda. Alors à propos du field recording et de vos prédécesseurs, comme vous disiez dans cette séquence Archipel, c'était notamment Bertrand Backland, je crois, qui était venu avec des enregistrements d'extérieur. Mm-hmm. Et je rappelle que toutes ces séquences, on les retrouve sur l'archipel de la médiathèque depuis le tout début. Ouais. Vous les collectionnez, ce qui est fort bien. Alors Sébastien Bizet, cet artiste Daki Honda, vous l'épinglez aussi à l'occasion d'une exposition à Charleroi au BPS 22.
Oui, on l'accueille le 25 novembre prochain pour une exposition qui durera à peu près 3 semaines. Une exposition de ses cassettes, hein, justement, puisque j'expliquais que ses cassettes constituaient une sorte de journal intime de tous ses déplacements. Donc là, on exposera à peu près 200 de ses cassettes, chacune étant customisée, chacune portant les traces de manipulation et les notes, en fait, des dates, des lieux d'enregistrement, etc. Donc c'est vraiment intéressant à voir, mais aussi à entendre, puisqu'il interviendra pour le vernissage, avec une performance.
Et ces cassettes sont reliées alors à un petit casque audio qui permet d'entendre
non,
ce qu'il y a
dessus ? Non, là, ce sera vraiment visuel. En fait, l'expo est quelque part conséquent à la publication d'un livret intitulé Diary, et qui est en fait un livret avec toute une série de photographies de ces cassettes. En fait. Mm-hmm. Donc c'est vraiment plastique, uniquement plastique, mais il faut bien comprendre un peu, comme l'œuvre de David Tremlett que j'ai mentionné tout à l'heure, que ce sont des cassettes reliquaires d'enregistrement. Et donc, même si on ne les entend pas, elles témoignent finalement d'un archivage. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. À l'origine, Daki Honda ne se destinait pas à une diffusion publique de ses enregistrements. C'était vraiment une sorte, oui, d'archivage, de journal intime. Et donc, il n'y avait pas de volonté de performer avec ces cassettes. Et donc, elles peuvent. Elles ont du sens, finalement, de manière un peu autonome.
Et alors, par rapport à la qualité de l'enregistrement, on sent bien que, voilà, il n'a pas des grands moyens.
Non, justement, ça, c'est ce qui est important. Quand je parlais tout à l'heure de volonté de saisir l'instant, on retrouve ça aussi dans ce qu'on appelle la musique lo-fi, hein, lo-fidelity, hein, basse fidélité, c'est-à-dire trouver un enregistrement un peu brut qui va témoigner d'une saisie instantanée, loin de l'aseptisation en studio, ce genre de choses. Et le travail d'Daki Honda rend hommage, quelque part, au Walkman enregistreur, au dictaphone, il en fait vraiment un instrument. Hein. Même si c'est ce côté cheap, finalement, de la musique à 7, devient cohérent avec le travail de mémoire. C'est-à-dire que quand on vit une expérience, quand on se la remémore, on l'altère inévitablement, le souvenir devient différent. La cassette audio, contrairement au CD par exemple, etc., va avoir une qualité qui va se dégrader finalement avec le temps, d'autant que Daki Honda est amené à réenregistrer sur ses cassettes, donc à superposer des souvenirs. Et donc le travail de mémoire est quelque part très analogue au fonctionnement ou au dysfonctionnement de notre propre mémoire. Donc la qualité même de l'enregistrement est vraiment très importante dans ce travail, quoi.
Alors un autre artiste peut-être, mais toujours dans ce domaine du field recording, et là aussi à l'occasion d'un événement, je pense.
Oui, je propose d'écouter un extrait de Peter Cusack, un extrait issu de son album Baikal Ice, enregistré en 2003. Et Peter Cusack sera ici à Bruxelles en octobre, à l'occasion du Field Festival qui aura lieu au Beurskebeur et à Kuotwe, donc ici à Bruxelles.
QO2, hein, je traduis.
Oui, QO2. Et donc, ce festival inaugure un projet Sons of Europe qui fait intervenir plusieurs villes et qui veut vraiment travailler sur ce field recording en musique, en science, en art, etc. Donc, je propose d'écouter peut-être l'extrait avant d'en parler, pour que l'éditeur prête un peu l'oreille avant de savoir ce dont il s'agit.
Et je me demande si on n'a pas déjà eu un extrait de cela. On va voir, on écoute. Et oui, en effet, je crois qu'il s'agit du même enregistrement que nous avait fait écouter Bertrand Bacland, d'un autre extrait certainement, je n'ai pas reconnu les pas de cet homme sur un lac gelé, c'est ça, hein ?
Oui, en fait, Peter Cusack, donc musicien, chasseur de sons britannique, et lors d'un voyage en Sibérie en 2003, a capté un certain nombre d'environnements liés au lac Baïkal. Donc on entend aussi bien des générateurs d'électricité, le port, la fonte des glaces, l'arrivée du transsibérien, etc. Donc il a cette habitude de vouloir marquer, garder l'empreinte de sites en pleine mutation liés à l'emprise humaine. Donc c'est quelque part une pratique qui participe de ce qu'on pourrait appeler l'écologie acoustique, qui est un concept qui émerge dans les années 70 et qui désigne toutes ces pratiques, hein, scientifiques, artistiques ou autres, qui visent à interroger les interactions, les relations entre l'organisme vivant et les environnements sonores, enfin les environnements naturels, etc., quels qu'ils soient. Donc on est bien ici à nouveau dans cette négociation entre la nature et la culture, voir comment nous on s'insère dans ces environnements, comment on les modifie, etc., et comment les écouter, etc. Donc c'est vraiment le field recording, hein, qu'on pourrait aussi appeler dans ce cas-ci du field revealing, donc essayer de révéler les environnements, etc., c'est une manière de se tourner vers le monde dans sa diversité, puisqu'on a ici un enregistrement lié à un site naturel a priori, mais énormément de praticiens essayent aussi de rendre des ambiances de ville, hein, les environnements urbains, etc. C'est ce qu'on retrouve souvent, notamment chez Justin Bennett, qu'on va écouter juste après. Un enregistrement ici de Cityscape, hein, vraiment des paysages sonores urbains. Alors, donc je rappelle que Peter Cusack, qu'on vient d'entendre, sera donc au Burskauburg en octobre. Je crois que c'est le festival a lieu du 12 au 15 octobre.
On vérifiera et on mettra ça sur notre site internet.
Alors, avant d'écouter Justine Bennett, je voudrais, disons, terminer cette considération sur la musique de field recording en rappelant bien que la musique, finalement, à l'heure où on a quelque part dépassé la trahison des images pour une trahison généralisée des perceptions, avec des médias qui nous balancent du son quotidiennement, de l'image constamment, etc. On est vraiment trahi, les perceptions sont constamment trahies. Eh bien, je crois qu'à l'heure actuelle, la musique doit être saisie, comprise en tant que situation. J'insiste vraiment sur ce terme, puisque le fait musical, performance par excellence, c'est l'archétype de la performance, on l'avait montré avec John Cage, le fait musical émane d'une concrétude. On a souvent eu tendance, et d'ailleurs les systèmes de notation, donc de partition, ont minoré la valeur performancielle du geste musical, et puis l'enregistrement l'a minoré encore davantage, puisqu'on écoute quelque chose qui ne se joue pas sur l'instant.
On fige les choses.
Et donc, je crois qu'il est nécessaire de revenir à cette notion d'expérience in situ, hic et nunc, l'ici et maintenant, la situation, puisqu'à force de rêver d'une musique un peu désincarnée, à trop l'abstraire, on manque à ce côté hyper pragmatique de la musique, à ce côté complètement expérimental, hein, pour reprendre le terme. Donc il faut bien comprendre que la musique, et Cage l'avait rappelé, et Fluxus a prolongé cette considération, la musique se vit toujours empreinte des micro-événements qui participent de son espace-temps spécifique. Donc d'où le terme de situation. Et je propose peut-être de terminer par cet extrait donc de Justine Bennett, Münster, qui se trouve sur l'album Cityscape, qui est enregistré entre 1993 et 1996. Donc ici, un environnement urbain, mais en même temps, vous allez le voir, relativement rural.
un son multiple au travers de ce morceau de Cityscape de Justin Bennett. On a l'impression d'un photomontage, façon sonore évidemment.
Oui, mais c'est tout l'intérêt de cette piste en fait, puisqu'elle est assez différente de celle qui se retrouve sur cet album, puisque les autres pistes témoignent vraiment d'un moment précis. Hein, on enregistre sur l'instant. On sait que c'est un son d'un environnement spécifique. Ici, on pourrait se demander s'il n'y a pas un peu de post-production, un peu de modulation, un peu de superposition des sons. Maintenant, si on tend bien l'oreille, on peut se rendre compte qu'il peut s'agir d'une situation en tant que telle, hein, pas du tout trafiquée. On pourrait se trouver près d'une fontaine avec en arrière-plan les cloches, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de cette piste. De se poser la question finalement, est-ce qu'il s'agit d'une situation ou est-ce qu'il s'agit d'un retraitement de situation au pluriel ?
Très bien, merci Sébastien Bizet. On se retrouve la semaine prochaine et on poursuit, je crois, dans le même créneau.
Exactement.
Merci.